Do. On va parler politique dans ce journal local avec des réformes très attendues et d'autres qui sont critiquées. On parlera aussi sécurité sur les routes et puis une histoire de ballon en fin d'édition. Le journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence par ses vœux de fin d'année.
Eh oui, de nombreux acteurs du débat public vont se prêter à l'exercice dans les prochains jours et certains ont déjà commencé, comme Christophe Plé, président de la CPME, qui a adressé une lettre ouverte à ses adhérents il y a quelques jours. Une lettre très politique dans laquelle il parle de retour à la réalité pour ceux qui avaient parié sur un gouvernement Brotherson malléable et pro-entreprise. Le tacle est bien sûr adressé au MEDEF qui avait beaucoup échangé avec le nouvel exécutif sans obtenir les avancées espérées. La CPME, elle, dit attendre les actes de la majorité Tavigny, attendre surtout les grandes réformes promises pour l'année 2024, notamment en matière de PSG. Comme le rappelle Christophe Plé, la suppression de la TVA sociale a enlevé 8 milliards de francs de recettes à la protection sociale. 8 milliards de francs qu'il faudra bien trouver.
Où est-ce qu'on va les chercher? Comment on fiscalise? On a bien vu qu'on a enlevé la CPS, la contribution pour la solidarité, mais ça n'a pas baissé le coût de la vie. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu laisser un impôt sur une large assiette, au lieu d'aller chercher grignoter sur des postes, sur des petits postes en les augmentant très fort, alors qu'on n'aura pas à la fin la somme totale. Il faut refaire quelque chose, une fiscalité qui soit assise sur une assiette très large, où tous les Polynésiens participent en fonction de leurs moyens.
Christophe Plé, qui attend aussi de pied ferme la réforme du Code du Travail, demandée depuis longtemps par le patronat, qui attend aussi des avancées dans le financement et le développement du logement social. Le représentant patronal milite surtout pour des mesures pour lutter contre les faux patentés.
Ceux qu'on prend comme des salariés, avec une patente, qui ne payent pas de cotisations sociales, qui ne payent pas d'impôts, qui payent rien, d'accord? Est-ce que on va commencer à sanctionner les gens qui font du faux salariat? Est-ce que le modèle, c'est d'avoir des salariés ou des non-salariés? Il va falloir répondre à ces questions-là pour après mettre la politique qui va avec. Parce que si on rentrait les milliers de faux patentés dans les comptes sociaux, peut-être on aurait l'équilibre.
Voilà, Christophe Plé qui parle donc des faux patentés, un dossier qui fait l'objet d'une auto-saisine d'origine patronale au CESEC, un chantier en cours donc, et ça n'est pas le seul, vous l'avez compris. Pour la CPME, pas question de perdre encore des années en consultation et en réflexion sur toutes ces grandes réformes, il faut agir maintenant pour profiter de la bonne dynamique économique.
L'année qu'on a connue en 2023 était quand même une année de prospérité en termes d'activité, mais on n'a pas du tout le même sentiment pour certains que 2024 va être la même année, parce que le tourisme revenge va être peut-être terminé. Donc on n'a pas de boule de cristal pour 2024, donc il faut vite faire les réformes qu'on a besoin de faire. Le tourisme, pareil, il faut construire des hôtels. On ne peut pas avoir 6 compagnies aériennes qui viennent en Polynésie du même endroit et puis leur dire, non, on a toujours le même nombre d'hôtels, même nombre de logements. Il faut se projeter pour les 5 prochaines années.
Voilà, Christophe Plé qui invite donc le gouvernement à enfin fixer sa ligne politique et à agir rapidement. Mais le président de la CPME prévient, il s'opposera à toute mesure qui viendrait rompre le dynamisme des PME polynésiennes.
Et puis la nouvelle année, c'est aussi un enjeu de sécurité.
Eh oui, sécurité sur les routes du fait des sorties tardives, du réveillon, de la consommation d'alcool et de stupéfiants. Les autorités de l'État appellent encore une fois à la vigilance et rappellent que cette année 2023 a déjà été bien assez meurtrière sur les routes. 33 décès dans des accidents, 174 blessés, un bilan encore provisoire, mais qui s'approche des chiffres de 2022, déjà considérés comme une année noire. Pour Nino Bonis, aucun doute, il y a un relâchement des Polynésiens.
Un relâchement dans le comportement en général. Bon, on sait que ce sont les deux routes qui sont les... On ne sait pas en matière de tuer en alcool. On se fait attraper, on se fait sanctionner, on recommence 8 jours après. Ben, si ce n'est pas du relâchement, ça c'est... Ou même de l'inconscience, quoi. Moi, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Je vois des deux roues envoyer des SMS en roulant, quoi. C'est juste... S'il y a de l'aberration, donc quoi faire?
Nino Bonis, directeur de l'Association polynésienne de prévention routière, pour qui tout est déjà mis en œuvre par les autorités pour lutter contre ce fléau de l'insécurité routière. Prévention dans les écoles, répression constante sur la voie publique. Un peu désabusé, le spécialiste estime qu'aujourd'hui, trop de Polynésiens ne veulent tout simplement pas comprendre, pas prendre ce sujet au sérieux. Il faut se ressaisir collectivement. Voilà son message. Et ça peut commencer dès le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pas de secret pour Nino Bonis, il faut planifier.
On sort, on s'organise avant. Qui va conduire? Où on dort? Qu'est-ce qu'on fait? Pour vraiment, c'est une question d'organisation. Après, quand c'est improvisé, en général, ça se passe mal. Hein. Si on ne fait pas avant, on prend des décisions qui peuvent être dramatiques.
Voilà, et éviter les drames, c'est aussi le vœu des forces de l'ordre pour cette fin d'année. 120 gendarmes seront mobilisés pour la Saint-Sylvestre pour, je cite, assurer la sécurité de ces festivités. La gendarmerie qui avait déjà enchaîné les contrôles pendant le week-end de Noël, 282 infractions avaient été relevées, dont une douzaine de conduites en état d'ivresse. d'ivresse ainsi que de nombreux défauts de ceinture ou de casque. La police avait pris le relais quelques jours plus tard avec des contrôles à papeter. Là aussi, de nombreuses amendes et procédures judiciaires étaient tombées, y compris pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Nouvelles opérations donc pour le réveillon du 31. Encore une raison, et pas la seule, de ne pas prendre de risques au volant.
Il est presque 7h06, on parle politique maintenant avec cette réaction.
Celle du syndicat du chanvre après l'adoption mercredi en Conseil des ministres d'un nouveau projet de loi sur le cannabis. Le syndicat créé fin 2021 pour soutenir la création d'une filière thérapeutique locale se dit forcément satisfait de l'avancée des travaux, même si rien n'est fait. Avant d'entrer en vigueur, le texte doit être, vous le savez, étudié au CESEC, voté à l'Assemblée, faire l'objet de plusieurs arrêtés d'application, encore plusieurs mois de travaux donc, et en attendant, le collectif s'interroge sur le rôle de l'Institut Mallardé dans ce dossier.
Qui nous préoccupe le plus, ce sont les travaux qui sont menés par l'ILM, puisque ça doit aboutir justement à l'homologation de certaines variétés de cannabis, THC, CBD, qui seront mis à disposition des futurs acteurs. Ils font leur recherche scientifique sur un modèle de production contenée qui pour nous est très énergivore. Ce n'est pas le problème qu'on souhaite promouvoir pour notre futur filière. On a des conditions climatiques qui sont idéales et la loi est juste là pour fixer les limites à ne pas dépasser et puis à contrôler que tout se passe bien.
Voilà, ça n'est pas au législateur de nous dire comment planter. C'est le discours de Philippe Catelin, le président de ce syndicat du chanvre, qui interpelle aussi sur la limite de THC qui sera autorisée dans les plantes cultivées. Pas plus de 0,3%. C'est le seuil utilisé en Europe pour qualifier les produits CBD légaux. Les arrêtés d'application polynésiens pourraient reprendre ce chiffre, mais pour le spécialiste, cette limite n'est pas adaptée au climat tropical qui pousse à la hausse le THC dans les plantes.
Si on reste contourné sur les 0,3%, ça veut dire qu'on va analyser mes fleurs qui vont monter à 0,6, 0,7 et ça va aller à la poubelle. On va perdre du temps pour rien. Alors que par derrière, tu as une utilisation possible de ces fleurs-là. On sait très bien que ça va pas en dilution hein, dans des huiles, dans des crèmes et tout. Donc il faut juste que ce soit bien cadré.
Voilà, des règles bien cadrées mais assez souples pour arranger les producteurs. Voilà ce que demande ce syndicat qui ne veut pas non plus d'un acteur trop central dans la transformation du cannabis. L'achat par l'Institut Mallardé d'un extracteur à 80 millions de francs inquiète de ce côté-là. Pour Philippe Catelin, le rôle de l'ILM doit être limité aux analyses. Un dossier à retrouver sur notre site radio1.pf.
Direction maintenant la Nouvelle-Calédonie.
Et oui, la Nouvelle-Calédonie où le tribunal administratif a donné raison à EPLP, une association environnementale qui réclamait l'interdiction des campagnes d'abattage de requins à Nouméa. Les campagnes visaient les requins tigres et surtout les requins bulldogs et elles avaient été mises en place pour protéger les baigneurs après 3 attaques dont une mortelle l'année dernière. 127 requins ont été abattus depuis janvier et la mairie de Nouméa comptait bien poursuivre l'opération. Non, dit donc la justice, ces campagnes d'abattage systématiques ont été jugées disproportionnées, d'autant plus qu'aucune étude scientifique précise n'a été menée pour connaître l'état des populations des espèces ciblées, ni les effets sur l'environnement de tels prélèvements.
Et puis on finit par une jolie histoire en cette période de fête.
Oui, une histoire de bouteille à la mer, ou plutôt d'un ballon lâché il y a 25 ans par un jeune garçon dans le sud de la France. Il s'appelle Grégory et la suite, c'est lui qui la raconte.
Je devais avoir 12 ou 13 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Et j'ai lâché un ballon bêtement, comme beaucoup de gens faisaient à l'époque, avec une petite carte avec mon nom, mon prénom et mon adresse. Et à ma grande surprise, un mois et demi plus tard, je reçois une lettre qui venait justement de Tahiti, donc pas Tahiti exactement, avec une personne qui m'avait dit qu'elle avait trouvé mon ballon dans son jardin. Et cette personne s'appelait Réjeanne à l'époque, je crois qu'elle avait 23 ans. Je ne retrouve plus malheureusement la jolie enveloppe avec le petit message qu'elle m'avait mis dessus.
Voilà, Grégory qui ne trouve plus l'enveloppe et qui n'a jamais trouvé Réjeanne, trop timide à l'époque pour lui répondre. Il a donc appelé Radio 1 depuis la France hier matin sur le conseil de la mairie de Papeete pour tenter de retrouver sa mystérieuse correspondante d'il y a 25 ans. Réjeanne qui doit avoir près de la cinquantaine aujourd'hui et qui peut donc nous appeler pour reprendre contact avec Grégory si elle le souhaite. Elle l'ignore peut-être, mais elle est à l'origine d'une vocation. Le garçon au ballon gère aujourd'hui un site internet de vente de ballons, justement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on se retrouve à 7h30. Ce sera pour la revue de presse.